Nous allons, s'il vous plaît, pouvoir reprendre. Donc, la journée du 13 septembre s'est passée sans problème. Donc, cette échéance fatidique n'est pas restée fatidique. Les discussions secrètes, non officielles, se poursuivent. On est sur le problème de l'espace aérien palestinien. Est-ce que les Israéliens ont le droit de surveiller ou non l'espace aérien palestinien ? Le problème, c'est que les territoires sont tellement étroits que dès qu'un avion israélien décolle, il est pratiquement au-dessus d'un territoire israélien. On discute sur la question d'une possible réoccupation des territoires par l'armée israélienne en cas de menace extérieure. Sous-entendu, ça ne peut être que du côté de la Jordanie, c'est-à-dire, plus probablement, enfin, c'est la vieille histoire d'une armée jordano-irakienne qui envahirait l'État hébreu. On avance sur le dossier du bassin sacré, mais sans arriver à une solution. On propose une nouvelle sortie qui serait un sommet entre Barak et Arafat, suivi du départ des deux équipes pour Washington pour travailler avec les Américains. Mais on n'est pas encore arrivé à un accord. Il faut que les parties puissent apparaître se mettre d'accord sur un ensemble de propositions qui seraient avancées par les États-Unis. Ah, c'est un processus diplomatique. J'ai pas cédé, t'as pas cédé. Les Israéliens n'ont pas cédé devant les Palestiniens. Ils ont accepté, ou ils auraient accepté, des propositions américaines. Mais maintenant, c'est difficile d'avancer des propositions américaines à un mois et demi de l'élection présidentielle. Donc, ça renvoie l'échéance après la première semaine de novembre. Il n'est pas question que la candidature d'Hillary Clinton soit perturbée par des propositions qu'avancerait son mari avant les élections. D'autant plus que bon, Hillary Clinton fait tout pour flatter son électorat de New York, propose de réinstaller l'ambassade américaine, enfin d'installer l'ambassade américaine à Jérusalem et pas à Tel Aviv, et de mettre sous condition l'aide aux Palestiniens qui devraient cesser d'envoyer des incitations à la haine et à la violence et s'engager à reconnaître la légitimité d'Israël. Ça, c'est Hillary Clinton. Donc, tant que l'élection de New York n'est pas décidée, il n'est pas question que Clinton puisse avancer une solution définitive. 25 septembre, on annonce que la rencontre Arafat et Barak aura lieu dans la soirée. Le même jour, Ariel Sharon fait savoir qu'il a l'intention de se rendre sur le Haram le 28 afin de rappeler les droits d'Israël sur le mont du Temple et sur l'ensemble de Jérusalem. Les Palestiniens protestent immédiatement. C'est une provocation destinée à interrompre un moment critique, le processus de paix. Le Likoud répond que personne n'a le droit d'interdire aux Juifs de se rendre sur le mont du Temple. En fait, Ariel Sharon n'a pas réussi à renverser le gouvernement de Barak par un vote parlementaire et s'inquiète de l'apathie de l'opinion publique israélienne et juive devant les « concessions » entre guillemets de Barak. Il adopte alors les suggestions de son ami, le journaliste Uri Dan, de faire une visite au Mont du Temple. Ce que Redan lui aurait dit, c'est « visite le mont et sort les Juifs de leur torpeur pour qu'ils puissent se rendre compte de ce que leur gouvernement est en train de faire ». Sharon annonce cette décision à partir de New York, où il vient de participer à la conférence des présidents des grandes organisations juives. Il s'est d'ailleurs plaint du fait que le futur du peuple juif dépendait du résultat d'une élection au Sénat des États-Unis. Tout le monde comprend de laquelle il s'agit. Il s'y ajoute la nécessité de faire face à un très probable retour sur la scène politique de Netanyahou. L'ancien premier ministre pourrait lui contester la direction du Likoud. Les sondages d'opinion ont montré qu'Ariel Sharon n'a pas réussi à acquérir une forte popularité et que Netanyahou serait un meilleur candidat que lui dans une élection face à Barak. Le dîner a lieu au domicile de Barak. L'ambiance est excellente et pour la première fois, une relation personnelle semble s'établir entre Arafat et Barak. Ils ont un aparté de 3/4 d'heure. Arafat promet de la rencontre pour avertir Barak que la visite de Sharon sur le Haram risque de provoquer une catastrophe. Mais le plus important semble alors qu'Arafat ait donné mandat clair de négociation à ses représentants qui partent en même temps que cette Barak pour Washington. Une fois arrivés, les délégués palestiniens se montrent pragmatiques. Ils acceptent la plupart des demandes sécuritaires des Israéliens, sauf un redéploiement en Cisjordanie des forces israéliennes en cas d'urgence. Le 27, à Washington, les représentants palestiniens insistent auprès des Américains pour que les autorités palestiniennes interdisent la visite de Sharon. Ross en parle avec Ben Ami, qui a aussi compétence sur la police. Ce dernier lui répond qu'il a eu une conversation avec Jibril Rajoub, le chef de la sécurité préventive palestinienne en Cisjordanie, qui lui a affirmé que la situation serait gérable si Sharon s'abstenait d'entrer dans les mosquées. D'ailleurs, le Shin Bet affirme ne disposer d'aucun renseignement concret sur des troubles possibles, alors que le responsable de la police de Jérusalem se montre plus inquiet. Consulté, les services juridiques montrent qu'il n'existe pas de moyens légaux pour interdire au chef de l'opposition de se rendre sur le mont du Temple, même à la veille du grand rassemblement musulman du vendredi. C'est ce que Barak répond à Clinton, qui s'inquiète du danger créé par la provocation. Mais dans la logique du président, s'il y a violence, ce sera la faute d'Arafat qui n'aura pas su contrôler la situation. En tout cas, les entretiens de Washington donnent aux participants un sentiment d'optimisme. Bien qu'il reste beaucoup à faire et que l'on attend l'arbitrage américain, on a l'impression que le règlement définitif est proche. Alors là, évidemment, on va arriver à ce qu'on appelle l'explosion. Depuis juillet, donc, la question de Jérusalem est devenue le dossier principal, éclipsant tous les autres sujets. Pourtant, rien n'a changé dans le rapport de force sur le terrain. Les quartiers arabes de la ville en général sont sous-administrés depuis juin 1967 et ne reçoivent qu'une petite fraction du budget municipal. Les implantations juives ont été conçues pour les contourner et les entourer. Il existe bien deux villes différentes qui ne se mélangent pas en dépit du discours sur l'unicité de la ville. Périodiquement, les autorités israéliennes ont travaillé à limiter la présence arabe, n'accordant qu'avec une extrême parcimonie les permis de construire et en multipliant les prétextes pour supprimer les autorisations de résidence. Mais la résilience, comme on dit aujourd'hui, de la population arabe est plus forte. Sa proportion dans la population totale de l'ordre du tiers se maintient en dépit des mesures vexatoires israéliennes. Le passage sous l'autorité palestinienne limiterait le nombre d'Arabes en Israël sans changer grand-chose pour le reste. Il en est de même pour le Haram. Comme vous le savez, depuis juin 1967, il est interdit pour les Juifs de prier sur le Haram par décision du rabbinat, qui considère que on risque de marcher sur l'emplacement du Saint des Saints, du Temple, donc ce qui serait une profanation. Un partage de faits s'était établi, le mur des lamentations aux Juifs et le Haram aux musulmans. Certes, il y a bien l'action des messianistes juifs, mais les activités sont restées sous contrôle de la police israélienne. Dans la gestion des lieux saints, le Waqf, qu'il gère les lieux saints, se comporte comme une autorité indépendante, comme le montrent les travaux d'agrandissement en sous-sol, destinés entre autres à contrecarrer une éventuelle revendication israélienne d'accès à partir des tunnels. Il y a bien une disproportion entre l'agitation diplomatique et les réalités de terrain. On peut estimer que ces dernières changeraient peu, quelle que soit la solution politique trouvée. Bien sûr, Arafat rêve de proclamer l'État palestinien de la tribune de la mosquée Al-Aqsa, mais ça, c'est de l'ordre du symbole. Mais c'est les échos de la négociation qui ont fait monter la tension, avec la question d'une éventuelle petite synagogue, d'un oratoire, d'un lieu de prière juif sur l'esplanade, ce qui suffit en matière de lieu saint pour provoquer une explosion. On sait qu'en général, le remplacement d'un carreau, le déplacement d'un chandelier à Bethléem entre églises chrétiennes ou au Saint-Sépulcre provoque déjà des bagarres terribles entre chrétiens. Donc, la chose la plus infime peut provoquer une explosion. Et je vous rappelle que la guerre dite de Crimée a démarré dans la basilique de Bethléem en 1847 pour une histoire d'étoiles accrochées au plafond. Les lieux saints, c'est extrêmement dangereux. Si je fais une parenthèse, si vous avez envie de devenir laïque, allez passer quelques jours à Jérusalem. Je ferme la parenthèse. Les plus militants sont évidemment les islamistes qui ont lancé une campagne de défense d'Al-Aqsa. Mais ces islamistes, qui sont des islamistes arabes palestiniens et pas des territoires palestiniens, sont complètement indépendants et même hostiles à l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne, elle, est prête à mobiliser les réseaux du Fatah et du Tanzim. La personnalité d'Ariel Sharon est déjà en soi une provocation. C'est l'auteur du massacre de Qibya en 1953, de la terrible répression de la bande de Gaza au début des années 1970, le responsable de l'invasion du Liban de 1982, et pour le moins l'un des responsables des massacres de Sabra et Shatila. C'est probablement la personnalité israélienne qui suscite le plus de haine du côté palestinien. En même temps, il faut voir les mouvements de l'opinion publique palestinienne. En 1999, l'opinion publique palestinienne craignait qu'Arafat cède trop lors de la négociation. Donc, le retour triomphant, entre guillemets, d'Arafat, qui n'a rien cédé à Camp David, a remis Arafat en place. Mais maintenant, on craint qu'il entre dans une logique d'abandon. On est dans un symétrique du côté arabe et du côté des Palestiniens et israéliens sur la question des abandons. Chacun dans les deux camps, on accuse le pouvoir de faire trop d'abandon. De plus, on s'en prend à la corruption des profiteurs des processus de paix qui seraient surtout composés de Palestiniens de l'extérieur, des gens de retour, des gens de Tunis, qui ont ainsi confisqué les sacrifices des acteurs de l'intifada. Déjà, dans la bande de Gaza, on voit le monter de signes annonciateurs de ce qui pourrait devenir une lutte armée avec l'utilisation de bombes télécommandées qui ont provoqué la mort d'un soldat israélien. La preuve que les autorités israéliennes sont conscientes de l'importance de l'affaire réside dans l'ampleur de la mobilisation policière du 28 septembre 2000. 1500 policiers encadrent la visite qui commence à 8h47 et dure trois quarts d'heure. Comme convenu, Sharon ne pénètre pas dans les mosquées. Les manifestants palestiniens sont tenus à distance. Dans la journée, des manifestations de protestation sont organisées à Jérusalem. Elles font quelques blessés légers, mais la violence paraît contenue. Sharon justifie sa visite en affirmant que le mont du Temple est sous souveraineté israélienne et que c'est le droit de tout juif de le visiter. Il ne peut exister de situation dans laquelle des juifs ne peuvent pas visiter le lieu le plus saint dans le monde pour le judaïsme. Et le Likoud reprend ce discours. Au soir du 28 septembre, l'incident paraît donc contenu. On ne peut que prévoir une sorte de baroud d'honneur le lendemain. Puis on reviendra au modus vivendi. Il faut seulement marquer le coup du côté palestinien en raison de l'importance du haram et de la personnalité exécrée de Sharon. Pourtant, le matin du 29 septembre, un policier palestinien participant à une patrouille conjointe en Cisjordanie ouvre le feu et tue un officier des gardes-frontières israéliens. Il est immédiatement arrêté par les services de Jibril Rajoub, mais l'enquête montre tout de suite qu'il s'agit d'une vengeance personnelle, sans rapport avec les événements de Jérusalem. Quelques semaines auparavant, il avait été battu par des soldats israéliens lors de l'incursion d'une de ses fameuses unités d'élite dans son village, tandis que l'un de ses proches avait été blessé. Par mesure de prudence et en guise d'avertissement, les Israéliens annulent les actions conjointes, ce qui, évidemment, ne va pas être sans conséquences pour la suite des événements. Là, on est, vous savez, dans tout ce qui constitue l'événement, dans son imprévisibilité. Cette affaire du matin n'a rien à voir avec la visite de Sharon. Mais elle va provoquer le fait qu'il n'y a plus de patrouille conjointe israélo-palestinienne dans les territoires. Le 29 septembre, 20 000 Palestiniens participent à la prière du vendredi sur le haram. Les prédicateurs louent les manifestants de la veille et mettent en garde contre la volonté des Juifs de rebâtir le temple. Beaucoup de manifestants ont apporté avec eux des pierres, des barres de fer et des cocktails Molotov. L'émeute éclate à la fin de la prière. Des pierres sont lancées sur les policiers présents ainsi que sur les fidèles juifs qui se trouvent en contrebas au mur des Lamentations. Le chef de la police de Jérusalem, vous voyez sur la photo, est blessé à la tête et doit être évacué sur une civière. Son second donne l'ordre à la police de reprendre le contrôle de l'esplanade. On utilise entre autres des tireurs d'élite qui font feu à tir tendu avec des balles recouvertes de caoutchouc. Je n'aime pas l'expression « balles de caoutchouc » parce qu'on donne l'impression que c'est gentil. Ce sont des balles métalliques enrobées de caoutchouc, ce qui n'est pas la même chose. Puis ensuite, on tire à balles réelles. Les combats sont violents, tandis qu'une partie des manifestants se réfugient dans les mosquées qui sont exposées aux tirs. Il faut l'arrivée en fin d'après-midi d'un supérieur qui réussit à se mettre en contact avec Jibril Rajoub pour obtenir le repli des policiers et le départ des manifestants. Le bilan est lourd, 15 policiers blessés et surtout 7 morts palestiniens occasionnés par des tirs à balles réelles selon les sources médicales palestiniennes, ainsi que 200 blessés du côté palestinien. Les télévisions arabes, en particulier Al Jazeera, amplifie les événements. C'est une très mauvaise gestion policière de la situation. Pendant un moment, le commandement de la police a perdu tout simplement le contrôle de ses hommes et les manifestants étaient enfermés sur le haram sans possibilité de se disperser. Vous savez que le B.A. de la répression des manifestations partout dans le monde, c'est de taper sur les manifestants en leur laissant une porte de sortie, de telle façon qu'ils se dispersent. Mais si vous bloquez tous les accès, vous maintenez la violence. Et donc, l'événement du 29 septembre est d'abord lié à une très mauvaise gestion purement policière, liée probablement aussi à cet autre accident, qui est que le chef de la police a été blessé et a été évacué de la zone d'affrontement. Il n'y aura pas d'enquête officielle israélienne sur les événements, mais la police israélienne prendra ultérieurement des mesures qui permettront d'éviter la reproduction d'un tel enchaînement de circonstances. À la nouvelle des événements de Jérusalem, des premières manifestations ont lieu dans les territoires. Arafat donne des instructions contradictoires qui reflètent les dilemmes de l'autorité palestinienne. D'un côté, il autorise le Tanzim et les organisations de jeunesse à manifester afin de ne pas laisser aux islamistes le monopole de la protestation, mais de l'autre, il donne consigne aux forces de police d'encadrer le mouvement pour éviter des heurts majeures avec l'armée israélienne. Lui-même et son entourage proche se rendent comme prévu auparavant en Égypte. Le seul à déconseiller le recours à la violence, c'est Abu Mazen, Mahmoud Abbas, qui est hostile à la façon dont on gère la situation. Les événements du 30 septembre vont se dérouler sans coordination entre la police palestinienne et l'armée israélienne. Les lieux traditionnels d'affrontement, en général des carrefours à la lisière des zones contrôlées par l'autorité, sont investis par les manifestants palestiniens pendant que les militaires israéliens commencent à utiliser les procédures prévues depuis 3 ans pour écraser un soulèvement, en particulier l'usage de tireurs d'élite. Ceci en dépit des consignes du gouvernement d'agir avec retenue. Et ça, ça va être aussi un des mécanismes de la crise, c'est que sur le terrain, la police et l'armée ne vont pas suivre les instructions venu du gouvernement. Les incidents les plus violents semblent avoir lieu en Cisjordanie. Le schéma est le même. Les manifestants palestiniens contournent les forces de police palestiniennes pour lancer des pierres sur les soldats israéliens qui répondent par des tirs à balles entourés de caoutchouc ou à balles réelles. Des policiers palestiniens, incapables de supporter les tirs contre leurs compatriotes, ouvrent à leur tour le feu contre les soldats israéliens. La séquence des événements se déroule ainsi à plusieurs endroits. L'affaire la plus lourde de conséquences aura lieu au carrefour de Nézarim dans la bande de Gaza. Un père et son enfant de 12 ans se trouvent pris par hasard dans l'échange de feu. Le père implore les militaires israéliens de cesser de tirer, tandis que l'enfant est blotti contre lui. Au bout de quelques minutes, l'enfant est tué, tandis que le père est grièvement blessé. La scène est filmée par un caméraman palestinien de France 2 qui transmet les images à son chef de bureau à Jérusalem, le journaliste franco-israélien Charles Anderlin. Le reportage est diffusé le soir par la télévision française, tandis que les images sont reprises par les télévisions mondiales suite à des accords d'échange entre les principaux réseaux internationaux de télévision. L'affaire a un retentissement mondial et les images du petit Mohamed El-Doran vont devenir une des grandes références iconiques du conflit israélo-arabe ou israélo-palestinien. Bien sûr, il y a le scandale épouvantable de la mort d'un enfant, mais plusieurs vont mourir dans la suite des événements ou au cours des événements. Le hasard de la captation filmique a fait émerger une image mythique qui renvoie à celle terrible de l'enfant du ghetto de Varsovie et au-delà à des référents très puissants comme l'accusation de meurtre rituel de l'enfant qui est l'un des grands leitmotivs de l'antisémitisme. C'est-à-dire, si vous comprenez bien, il y a le hasard d'une image qui va prendre une fantastique charge émotionnelle parce qu'elle renvoie à des contextes culturels qui s'articulent sur des siècles d'histoire. Et c'est pour ça que l'image a un tel impact au niveau mondial. Sur le moment, l'armée israélienne transmet ses regrets, puis ses services d'information de communication organisent une campagne de démenti, affirmant que l'enfant n'a pas été victime de tirs israéliens mais palestiniens, puis que c'était un coup monté. Le grand journaliste qui est Charles Anderlin se voit systématiquement calomnié. On lui accordera ainsi un prix Goebbels de la désinformation. En France même, des personnalités connues entretiennent ce flot de démentis et d'attaques personnelles en évoquant un complot antisémite. Je me permets de saluer ici Charles Anderlin, qui est un ami personnel, et que je soutiens dans cette affaire qui l'a très considérablement meurtri. Le bilan de la journée est de 16 morts et de plus de 500 blessés. Les journées suivantes, les 1er et 2 octobre, vont considérablement aggraver la situation. Le dimanche 1er, voit 12 personnes trouver la mort dans des lieux d'affrontement devenus habituels, tandis que la violence s'étend aux Arabes israéliens, aussi bien dans les villes de peuplement mixte, Acre, Jaffa, Haïfa, que dans les agglomérations complètement arabes. Dans la journée d'un lundi, 7 Arabes israéliens, 5 Arabes palestiniens, un automobiliste et un soldat israélien sont tués. Les événements à l'intérieur d'Israël montrent la cassure qui s'est opérée entre juifs et arabes depuis la mort de Rabin. La police israélienne, surprise, a répliqué par des tirs à balles réelles. En Galilée, se déroulent des scènes similaires à celles que l'on a vues en Cisjordanie. Les heurts avec le voisinage juif sont fréquents. Les routes sont coupées pendant plusieurs heures. Ces violences se poursuivent pendant plusieurs jours, faisant au total 13 morts chez les Arabes israéliens. Afin de calmer le jeu, Barak annonce la formation d'une commission d'enquête sur les événements à l'intérieur d'Israël, mais non pour Jérusalem et non pour les territoires occupés. L'autre lieu chaud est le tombeau dit de Joseph, petite enclave israélienne à proximité de Naplouse. Ehud Barak a refusé de faire évacuer les soldats qui s'y trouvent assiégés par la population palestinienne. Un soldat israélien druze est blessé. On tente de négocier son évacuation avec les services de sécurité palestiniens. Ceux-ci font de leur mieux, mais ne peuvent pas contrôler la foule. Finalement, le soldat meurt, ce qui provoque une volonté de vengeance chez les militaires israéliens. Cependant, à la fin de la semaine, l'armée israélienne abandonnera le site, ce qui paraîtra encore plus stupide d'avoir laissé des gens se tuer là, si c'est pour abandonner ensuite le site. Pour la bonne compréhension des événements, il faut prendre en compte la volonté du chef d'état-major de l'armée israélienne, Shaul Mofaz, de rétablir la capacité de dissuasion de son armée afin de montrer aux Palestiniens qu'ils n'obtiendront rien par la violence et leur faire comprendre qui est le maître. La répression israélienne n'est pas seulement réactive, elle se veut préventive. Elle est surtout totalement contre-productive. Comme dans les épisodes précédents, chaque mort palestinien suscite une nouvelle violence. Les funérailles créent à chaque fois une dynamique de mobilisation et de protestation, d'une nouvelle manifestation, des affrontements et des morts, ainsi de suite. Les Palestiniens ne semblent pas vouloir comprendre la leçon qu'on veut leur donner. A contrario, à Jérusalem, où la police a été reprise en main dans une perspective de gestion intelligente de la force, les affrontements ont rapidement cessé. On tente d'établir une trêve le 3 octobre pour prendre au mot Arafat qui affirme que l'on contrôlera la situation si les Israéliens diminuent l'usage de leurs forces et permettent d'avoir un jour sans funérailles palestiniennes. Le compte est alors à plus de 50 morts palestiniens. On a une relative accalmie et puis on a de nouveaux morts palestiniens. Le gouvernement israélien fait porter la responsabilité des événements sur Arafat qui ne chercherait pas à rétablir l'ordre, mais il ne prend pas en compte le comportement de ses soldats et l'usage disproportionné de la force, comme le montre l'utilisation de tireurs d'élite qui tirent à balles réelles contre les meneurs supposés des manifestations. De même, on se plaint du comportement des policiers palestiniens et on utilise des hélicoptères de combat pour détruire leurs cantonnements préalablement évacués. Ce n'est pas évidemment le meilleur moyen d'encourager une coordination des efforts. En même temps, on cherche à sauver le processus de paix. La communauté internationale fait porter la responsabilité de l'explosion sur la provocation que constituait la visite au Haram. Mais au Conseil de sécurité, les Américains s'opposent à toute condamnation d'Israël. Dans l'immédiat, on organise une réunion à Paris en présence de Madeleine Albright, qui est de passage à Paris. Barak et Arafat trouveraient une formule pour mettre fin à la violence qui serait ensuite entérinée par un sommet à Sharm el-Sheikh sous le patronage de Moubarak. Arafat conditionne sa participation à 3 demandes. L'arrêt des tirs israéliens, le retrait des forces israéliennes des villes autonomes assiégées et de l'esplanade des mosquées, la constitution d'une commission d'enquête regroupant Israéliens, Palestiniens, les États-Unis et l'Union européenne. Selon la version française des faits, durant son entretien avec Jacques Chirac, Madeleine Albright a accepté le principe de la commission d'enquête que refusent les Israéliens. Se méfiant de toute internationalisation de la crise, Madeleine Albright penche pour une commission américaine. Barak est venu à Paris contraint et forcé et décidé à ne rien céder à Arafat, ce qui apparaîtrait comme une concession arrachée par la violence. Le 4 octobre, Jacques Chirac reçoit d'abord Arafat qu'il sermonne. Il l'invite à faire confiance à Bill Clinton, qui veut réellement parvenir à une solution. Puis c'est le tour de Barak qui exige un cessez-le-feu avant tout retrait israélien et qui refuse toute commission internationale. Chirac constate la disproportion du nombre de victimes, 60 chez les Palestiniens, 3 du côté israélien. L'entretien se passe mal. Ensuite, les entretiens se déroulent à l'ambassade des États-Unis, sans présence française. Les rapports sont tendus. Selon Dennis Ross, Arafat aurait exigé une présence internationale pour protéger la population palestinienne. Les Américains s'en tiennent à des observateurs sur le modèle de la situation à Hébron. Barak rejette catégoriquement toutes ces perspectives. Les Palestiniens passent alors à la Commission internationale. Barak accepte qu'à la rigueur, elle soit américaine avec une éventuelle participation européenne. Puis il demande une pause pour discuter avec ses conseillers. La pause s'éternise. Au bout de 2 heures, Arafat décide de partir. Albright est obligé de lui courir après pour le retenir, tandis que Dennis Ross va chercher Barak. On arrive alors à une série de points d'entente. Les Israéliens ne tireraient qu'en cas d'extrême nécessité et les Palestiniens arrêteraient les manifestations. On passe à la rédaction d'un mémorandum définissant les arrangements de sécurité qui seraient signés le lendemain en Égypte. Albright, Arafat et Barak repartent alors pour l'Élysée où se trouve déjà le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. Albright confirme qu'on a trouvé un accord sur la sécurité et que les négociations reprendront le 10 octobre en présence de Bill Clinton. Arafat confirme mais ajoute qu'il y a un accord de principe sur la commission d'enquête internationale. Barak réplique qu'une telle commission ne serait pas le meilleur moyen de recréer la confiance. Albright confirme qu'il y a bien un accord de principe. Chirac s'exprime en dernier et appelle à la raison. Il souligne que la commission d'enquête est nécessaire pour les opinions publiques, que les Européens la souhaitent et que les modalités devraient en être débattues entre les parties. Pour qu'elle soit crédible, le secrétaire général de l'ONU doit être impliqué d'une façon ou d'une autre. À la fin de la réunion, à la demande d'Albright, Chirac a un aparté avec Arafat pour lui demander qu'avec insistance de paraffer l'accord le soir même. La version américaine des faits est différente. Chirac aurait exigé une présence internationale, acceptant une demande palestinienne déjà refusée par les Américains et les Israéliens. Les intéressés se seraient sentis piégés par la manœuvre française. Arafat ne revient pas à l'ambassade américaine où il délègue Nabil Chart et Sam Harekat. Ces derniers rejettent le document rédigé par Ross qui leur paraît faire porter la responsabilité de la violence sur les Palestiniens. Selon eux, il vaut mieux que l'accord soit conclu et signé à Sharm el-Sheikh sous les auspices de Moubarak. Barak refuse. Ce serait un nouveau piège après celui de l'Élysée. Il décide de rentrer en Israël. Ce qui va à l'encontre de cette version est que dès le 5 octobre, les services de propagande israéliens s'en prennent à Jacques Chirac, jugé responsable de l'échec de la négociation de Paris pour avoir encouragé Arafat à relancer la question de la commission d'enquête, pourtant écartée par les Américains. On doit parler de désinformation puisque selon Ross lui-même, il y avait bien un accord de principe sur la commission dont il restait à définir la composition. Dans ses mémoires, Gilad Shéhr n'évoque pas non plus une intervention française à propos d'une présence internationale. On doit donc considérer, dans l'attente de nouvelles informations, qu'il s'agit bien d'une invention postérieure de Ross destinée à disculper Barak. L'interprétation du conseiller diplomatique de Jacques Chirac, Jean-Marc de la Sablière, paraît la plus crédible. Je cite. Le cœur du problème résidait sans doute dans le fait que l'arrangement conclu dans l'après-midi sur les procédures de sécurité devait être, contrairement à ce que nous avions cru, imparfait et ne plaire à aucun des deux protagonistes. Madeleine Albright était bien placée pour le savoir. C'est sans doute pourquoi, restant dans la ligne américaine traditionnelle, elle a demandé au président d'intervenir pour s'assurer que le leader palestinien paraphrait bien à Paris l'arrangement sur les mécanismes de sécurité et aménager Ehud Barak dans sa présentation initiale. On peut imaginer que Yasser Arafat, méfiant, et qui pouvait espérer obtenir davantage à Sharm el-Sheikh, ait décidé de ne faire faux bond, et qu'Ehud Barak, déjà irrité d'avoir été contraint de venir à Paris, qui cherchait à gagner du temps pour éviter ou moins retarder la mise en place de la commission d'enquête, en ait profité de son côté pour se dégager. Il le fit de manière peu glorieuse, sachant que cela serait difficilement compréhensible pour l'opinion mondiale dans le climat de violence de l'époque. Il fallait donc un bouc émissaire, Jacques Chirac, qui ne l'avait pas ménagé, surtout dans sa déclaration à la presse du 2 octobre, était tout à fait désigné. L'ampleur de la désinformation appelait une campagne violente. Elle le fut. Fin de citation. Dans la séquence entamée le 28 septembre, l'attribution de responsabilité a une grande signification politique. On a vu que l'avis général donne une importance première à la provocation constituée par la visite de Sharon, cette dernière étant motivée par la volonté de s'opposer au principe même des discussions en cours sur l'avenir de Jérusalem, ainsi que par ses préoccupations politiciennes de concurrence avec Netanyahou. L'intéressé s'est justifié à nombreuses reprises en affirmant que sa visite n'était pas la cause de l'explosion et que cette dernière était due à un plan préparé de longue date par Arafat. Il est vrai que le chef de l'autorité palestinienne a envisagé à plusieurs reprises le recours à des manifestations violentes en raison des impasses du processus de paix. L'affaire du Kosovo l'a influencé sur ce point. Mais s'il avait voulu lancer un mouvement de ce genre, il l'aurait fait à l'occasion du 13 septembre et non pas 15 jours après, un moment où les négociations semblaient progresser rapidement à Washington et où on était dans l'attente d'une prise de position américaine. La divulgation de ce plan aurait été retardée par les événements, mais il est plus probable que de toute façon les contingences de la vie politique l'auraient reporté après les élections de novembre. L'argument supplémentaire en faveur de l'absence de préméditation vient que les services israéliens n'ont rien vu venir, contrairement à ce qu'ils ont prétendu a posteriori. Certes, ils ont bien noté les signes d'exaspération de l'opinion publique palestinienne, mais n'ont rien perçu de suffisamment inquiétant pour les conduire à demander une interdiction ou un report de la visite de Sharon. que ce dernier, dans le contexte, aurait certainement accepté puisqu'on aurait alors invoqué les impératifs de sécurité. De plus, le mouvement a été largement porté les deux premiers jours par les Arabes israéliens qui ont ensuite protesté violemment. Or, l'autorité palestinienne n'a aucune capacité d'influencer sur leurs actes, aussi bien dans les forces de gauche que chez les islamistes, on l'avait vu précédemment dans l'affaire de Nazareth. La cause première des événements est bien la question du haram, point névralgique depuis 1929. À partir de Camp David II, l'esplanade est devenue le point central des négociations et les informations qui ont filtré ont contribué largement à faire monter la tension. De plus, les Palestiniens ont le sentiment qu'ils affrontaient un front commun israélo-américain. Là encore, le fait qu'il n'y ait aucun musulman dans l'équipe de négociation américaine, composée de juifs américains, de chrétiens américains et d'un chrétien arabe, fait que les Américains n'ont absolument aucune perception des sentiments musulmans sur le dossier. Le second ordre de cause vient de l'échec des paramètres d'Oslo. Leurs concepteurs estimaient que les accords permettraient une amélioration notable des conditions économiques des territoires occupés et l'établissement d'un climat de confiance. Ces deux conditions n'ont pas été remplies. Il n'y a pas eu d'amélioration notable du niveau de vie et l'espace palestinien s'est trouvé encore plus cloisonné qu'avant, avec la création des trois zones de la Cisjordanie et la multiplication des barrages et des fermetures. De Rabin à Barak, la colonisation et la création de faits accomplis se sont accélérées, rendant toujours plus difficile la condition des Palestiniens. Les retards successifs et le non-respect des échéances et des engagements pris ont ruiné tout climat de confiance. La faiblesse de l'autorité palestinienne est dans ce contexte un troisième élément à considérer. Faute de pouvoir améliorer réellement la condition des habitants des territoires, elle n'a pu se consolider qu'en établissant une relation clientéliste et alimentaire avec une partie de la population. Elle ne semble ainsi bénéficier matériellement qu'à une petite classe de profiteurs de la cohabitation avec les Israéliens, les VIP, pour une bonne part des Palestiniens de l'extérieur. Face à la concurrence des radicaux islamistes, il faut surtout éviter d'apparaître comme un organisme de collaboration avec les Israéliens. S'ajoutent les conséquences du polycentrisme d'Arafat, dont l'autorité est divisée entre les services de police d'un côté et les organes du Fatah de l'autre, notamment le Tanzim. Depuis le 29 septembre, Arafat semble donner des instructions contradictoires, ou du moins incohérentes, aux uns et aux autres. Du côté israélien, on semble croire à une omnipotence d'Arafat, jugé capable de donner des instructions pour arrêter la violence qui serait immédiatement respectée. Or, la dynamique de la protestation populaire s'alimente avant tout de la dureté de la répression israélienne et du nombre de victimes. Jacques Chirac l'a bien senti en disant « On ne lutte pas contre l'émotion d'un peuple avec des blindés ». Il est impensable qu'Arafat donne l'ordre de tirer contre son propre peuple, il faudrait encore qu'il ait les hommes pour le faire. Il lui faut du grain à moudre pour arriver à calmer la situation. Ce qui est certain, c'est qu'il n'a toujours pas confiance dans l'administration Clinton, qui lui paraît constamment alignée sur Barack. Il le voit encore à Paris, où les pressions sont exercées sur les Palestiniens et non sur les Israéliens. Il sait aussi qu'il n'obtiendra rien sans le soutien américain, en raison de l'écrasant rapport de force en sa défaveur. Il compte sur le début d'insurrection pour montrer que l'on pourra conclure que sur la base des lignes du 4 juin, sinon l'accord sera rejeté par la société palestinienne. Le risque dont il ne veut pas se rendre compte est de ne plus apparaître aux autres parties en cause comme un partenaire fiable. En même temps, le gouvernement Barak ne veut ou ne peut pas se rendre compte qu'il est incapable d'imposer sa volonté à sa propre armée et que Shaul Mofaz exerce une politique bien différente des consignes de retenue qui lui sont données. Depuis Camp David II, Barak accuse l'OLP de ne pas être un partenaire pour la paix et cherche pourtant à négocier avec elle, ce qui déconcerte le camp de la paix en Israël, d'autant plus qu'une bonne partie de ce camp n'est pas prête à accepter un retour complet aux lignes du 4 juin, tout en accentuant l'opposition des adversaires du processus de paix. Le jeudi 5 octobre, c'est sans Barak, qu'Olmert et Arafat se réunissent à Sharm el-Sheikh en présence de Moubarak. Le président égyptien s'en prend publiquement à l'usage excessif de la force par les Israéliens et ne voit pas comment l'absence de Barak apporte une contribution au processus de paix. Comme tous les dirigeants arabes, il doit faire face à la colère de son opinion publique, attisée par les flots d'images venus des télévisions satellitaires. Par précaution, les Américains ont d'ailleurs fermé pour plusieurs jours leurs ambassades au Proche-Orient. À Sharm el-Sheikh, ils adjurent Arafat de respecter les engagements devenus oraux, conclus à Paris, mais pressés de maintenir le calme après les prières de vendredi. Le Palestinien avoue que la situation l'inquiète, comme s'il ne pouvait rien faire. De son côté, Barak adresse un quasi-ultimatum à Arafat. Je cite, « Arafat et l'autorité palestinienne devront décider s'ils retournent à la table des négociations pour parvenir à la paix ou s'ils vont dans la voie de la confrontation et de la violence. Ils devront être prêts à subir les conséquences de leur choix. » Fin de citation. Le lendemain, il donne un délai de 48 heures pour établir le calme. Clinton enjoint par téléphone à Arafat d'imposer son autorité sur le Tanzim. Le bilan du vendredi 6 octobre, jour de colère, est de 10 morts palestiniens en dépit de quelques retraits symboliques de l'armée israélienne. On est désormais à 86 morts, 73 palestiniens, 10 arabes israéliens, 3 israéliens juifs. À Jérusalem, en dépit de la violence de la manifestation, toujours une bonne gestion de la police permet d'éviter qu'il y ait mort d'hommes sur le haram, mais un enfant de 12 ans est tué par balle dans la vieille ville. On commence à ce moment-là à parler d'une intifada d'Al-Aqsa. Le samedi 7 octobre, la destruction du tombeau de Joseph après son évacuation par l'armée israélienne émeut considérablement l'opinion publique israélienne. Arafat ordonne immédiatement sa reconstruction. À la frontière libanaise, une manifestation violente de Palestiniens provoque des tirs de l'armée israélienne. Le bilan est de 2 Palestiniens tués et 17 blessés. Parallèlement, la Hezbollah démontre sa solidarité en opérant une incursion dans le secteur des fermes de Sheba, et en enlevant 3 soldats israéliens. Selon sa direction, cette opération répond à nos promesses de libérer tous nos prisonniers en Israël et chaque pouce de notre territoire encore occupé et de soutenir l'intifada palestinienne. Des intermédiaires se mettent en place pour ouvrir une négociation pour un échange de prisonniers. Au Conseil de sécurité, les États-Unis n'opposent pas de veto à la résolution 1322. Qui déplore l'acte de provocation commis le 28 octobre, de même que les violences, etc., condamne les actes de violence, particulièrement le recours excessif à la force contre les Palestiniens, demande à Israël, puissance occupante, de se conformer scrupuleusement à ses obligations juridiques et aux responsabilités qui lui incombent en vertu de la 4e Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre en date de 1949. Ça, c'est un élément important parce que périodiquement, on rappelle que les conventions de Genève s'appliquent au territoire occupé, ce qu'Israël rejette, en considérant que les conventions ont un aspect politique et un aspect humanitaire, et Israël ne considère que l'aspect humanitaire des conventions et pas l'aspect, entre guillemets, politique. Ce qui est tout à fait curieux parce que si on est signataire des conventions, on accepte l'intégralité, on ne peut pas choisir entre, alors évidemment, l'aspect dit politique des conventions, c'est qu'elle interdit la colonisation de territoires occupés. Mais on appelle ensuite, donc, on exige la fin des violences et la réalisation d'une enquête rapide et objective sur les événements et une reprise immédiate des négociations. Pour Madeleine Albright, cette résolution est déséquilibrée. Elle ne prend pas en compte le fait que les lanceurs de pierres palestiniens mettent Israël en état de siège. C'est ce qu'elle dit. Madeleine. L'abstention a été indispensable pour que les États-Unis conservent leur position de médiateur. Le dimanche 8, voit une nette baisse des violences, mais il devient clair qu'Arafat n'arrive pas à contrôler ses propres troupes, en particulier le Tanzim de Barouti, qui appelle à la poursuite de l'intifada et à la guerre populaire. Le contrôle de la situation est d'autant plus difficile à établir qu'en Cisjordanie, les colons multiplient les actes de représailles contre la population arabe. Des actes analogues ont lieu en Galilée israélienne, en particulier entre la Nazareth juive et la Nazareth arabe. La diplomatie internationale s'active pour sauver le processus de paix avec un chassé-croisé de médiateurs russes, européens et de l'ONU. Barak allonge son ultimatum de 2 à 3 jours. Son entourage craint que le retour à la force mette fin au processus de paix et on n'exclut pas la tenue d'un nouveau sommet aux États-Unis. Aux alentours du 10, on semble s'orienter vers un conflit de basse intensité. Certes, Arafat donne des ordres pour s'en tenir à des manifestations pacifiques, mais la situation sur le terrain est d'autant plus confuse que l'on a des versions contradictoires des événements. L'armée israélienne évoque la préparation d'attentats contre ses hommes, mais de nombreux témoignages parlent d'attaques de la population arabe par des colons armés. Pour l'instant, c'est le Fatah qui occupe le terrain, mais dans la population palestinienne, en particulier dans la bande de Gaza, face à la disproportion du nombre de morts, on commence à appeler le Hamas à exercer des représailles. C'est dans ce contexte que se déroule le drame du 12 octobre. Deux soldats israéliens, des chauffeurs, sont entrés par erreur dans la zone palestinienne de Ramallah. Ils sont conduits à un poste de police. La rumeur se répand que l'on a arrêté deux membres de commando chargés d'infiltrer les secteurs palestiniens pour des arrestations ou des assassinats ciblés. La foule en fureur prend d'assaut le poste de police et lynche les deux soldats. Des policiers palestiniens participent à la curée. La scène est filmée par une télévision italienne privée et les images sont diffusées par les principales télévisions étrangères, y compris France 2. Vous noterez sur l'image que le reportage a été donné sur les télévisions avec des visages non floutés, ce qui a permis ensuite à l'armée israélienne de retrouver un certain nombre de personnes impliquées dans l'événement. Je crois qu'aujourd'hui, on ne permettrait pas de diffuser des images non floutées d'un événement de ce genre. La violence des images suscite un sentiment d'horreur en Israël. On est maintenant en pleine guerre médiatique, chaque parti affichant les corps ensanglantés de ses morts et accusant l'autre de nazisme. C'est le syndrome contemporain malheureusement bien connu de la concurrence de victimes, ce qu'on appelle aussi le point Goldwyn, puisque vous savez, dans une discussion quelle qu'elle soit, quand on commence à faire référence au nazisme, la conversation s'arrête parce que les gens ne peuvent plus s'entendre. Et c'est comme ça, un certain Goldwyn qui a identifié ça au début des années 1990. Et donc, on dit top, point Goldwyn, on arrête. Et là, on en est dans une situation de point Goldwyn. En dépit de la condamnation de l'événement par l'autorité palestinienne et des assurances données d'éviter de nouveaux affrontements, Barak donne l'ordre de bombarder des cibles de l'autorité palestinienne, tout en prévenant au préalable les intéressés pour que les lieux soient évacués. Mais le résultat est de finir de désorganiser complètement la police palestinienne. Un résultat inattendu des menaces israéliennes est l'ouverture des prisons, de certaines prisons palestiniennes, de peur qu'elles soient bombardées. Une centaine de détenus du Hamas sont ainsi libérés et Israël exige qu'ils soient immédiatement ramenés dans les cellules, ce qui paraît difficile dans ce contexte de nouvelle intifada. Pour l'armée israélienne, il s'agit d'envoyer un message fort, mais les Palestiniens le perçoivent comme une déclaration de guerre totale à leur encontre, d'où leur exigence d'une intervention internationale. C'est là le centre du problème. Même si les plus radicaux du Tanzim peuvent croire à une intifada de l'indépendance, sur le modèle de Hezbollah ou Liban Sud, ils ne disposent ni des qualités d'organisation du Parti de Dieu, ni de ses sanctuaires hors de portée des Israéliens. Pour la direction de l'OLP, outre la nécessité d'arriver à contrôler un mouvement qui la vise indirectement, le véritable gain serait d'obtenir une présence internationale sur le terrain, ce qu'elle exige depuis des années. L'enjeu représenté par la Commission internationale est double. D'une part, elle doit servir à valider le récit palestinien des événements, une provocation suivie d'un usage disproportionné de la force, et non un plan ourdi de longue date par Arafat. D'autre part, sa création doit amorcer une internationalisation de la crise. Le refus israélien est d'autant plus fort que le gouvernement de Barak est en position de faiblesse sur ces deux points. Les territoires sont maintenant en position de bouclage complet. Les principales villes sont en situation de blocus. La stratégie qui prévaut est de menacer de frapper l'autorité palestinienne jusqu'à ce qu'elle renonce à la violence. On bombarde ainsi l'académie militaire de Jéricho en représailles à la destruction d'une synagogue ancienne dans l'enclave palestinienne. On retrouve là la syntaxe de la guerre des frontières des années 1950 et de la lutte contre l'OLP en Jordanie et au Liban entre 1967 et 1970. L'inconvénient de ce genre de stratégie, c'est qu'elle pousse rapidement à une montée aux extrêmes, et comme le montre le cas libanais, elle risque de conduire à l'effondrement du pouvoir de l'adversaire, qui ne pourra plus se faire le garant de la sécurité d'Israël. Les images diffusées en permanence par les télévisions arabes provoquent une forte émotion dans les opinions publiques arabes. Un peu partout, des manifestations de solidarité avec les Palestiniens s'organisent spontanément. Bien évidemment, la jeunesse est le fer de lance de ces mouvements qui prennent de plus en plus une tournure anti-américaine. Dans ce contexte, l'attentat monté à Aden contre le destroyer américain US Cole, qui a fait 17 tués et 39 blessés chez les marins le 12 octobre, prend une forte résonance, bien que l'opération ait été préparée depuis longtemps par le djihad international de Ben Laden. Le département d'État multiplie les mises en garde aux citoyens américains pour les décourager de se rendre au Moyen-Orient. Les régimes en place s'inquiètent de cette remontée de l'émotion populaire qu'ils ne contrôlent pas. Rétrospectivement, les historiens, ils sont toujours très bons rétrospectivement, les historiens, je vous dis, y verront les premiers signes annonciateurs de ce qui se passera une dizaine d'années plus tard. L'administration Clinton tente de sauver ce qui peut l'être en organisant un nouveau sommet en Égypte. Fidèle à sa ligne, Arafat conditionne sa participation à la réouverture des territoires occupés, aux communications internationales, au retrait de l'armée israélienne sur les positions d'avant l'intifada et un engagement en faveur de la constitution de la Commission internationale d'enquête. Washington mobilise toutes les médiations en cours pour faire comprendre aux leaders palestiniens qu'il ne peut y avoir de conditions et que ce sera l'objet du sommet. De même, inversement, enfin, Arafat exige, Barak exige un cessez-le-feu 72 heures ou 48 heures avant le sommet. Obtient la même réponse des Américains. Nouveau coup du sort pour lui, le Hezbollah annonce l'enlèvement en dehors d'Israël d'un colonel de l'armée israélienne. Il s'avéra qu'il s'agissait d'un officier réserviste et qu'il a été attiré à Dubaï dans le cadre d'un trafic de drogue. Il sera libéré en janvier 2004 dans le cadre d'un échange de prisonniers. Il plaidera coupable pour trafic de drogue et il ne sera pas condamné. Le sommet de Sharm el-Sheikh, les 16 et 17 octobre, prend un aspect plus international avec une coprésidence de Clinton et de Moubarak, la participation du roi Abdallah II, de Kofi Annan, de Javier Solana, représentant de l'Union européenne. En revanche, la Russie n'a pas été invitée. On discute au niveau ministériel de la rédaction d'un communiqué commun et on échoue sur la question de la responsabilité des événements. Parallèlement, George Tenet, le chef de la CIA, et Omar Suleiman, le chef des services de renseignement égyptiens, travaille avec les responsables israéliens et palestiniens à la mise au point d'un plan de sécurité. Je cherche de trouver s'il y avait une... Une fois le document obtenu, on exerce les plus fortes pressions sur Arafat pour qu'il l'approuve. Après des heures de discussion tendue, on arrive à un accord que Clinton résume en public, évitant aux parties d'avoir à signer. Les deux parties s'engagent à appeler à la fin des violences et à rétablir le statu quo d'avant les affrontements, ce qui comprend le retour aux anciennes positions et le rétablissement des communications. Un compromis est trouvé pour la commission d'enquête. Elle sera américaine, comprendra des Israéliens et des Palestiniens et travaillera en consultation avec l'ONU. Son report sera communiqué au président des États-Unis, au secrétaire général de l'ONU et aux parties avant publication. Le rapport final sera publié par le président des États-Unis. Les négociations de paix reprendront dans les 15 jours sous l'auspice américaine. Reste que les Israéliens conditionnent le tout à des périodes de calme d'au moins 2 jours et que le communiqué est mal reçu du côté de l'opinion publique palestinienne. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Vous le saurez dans 15 jours.